Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode de Femmes aujourd'hui. On parle de militantisme en douceur et dans la bienveillance. On y va pour les détails.
Médien. Yasmine. Femme d'aujourd'hui.
Lina Benkiren, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lina?
Très bien, merci et vous, alhamdoulilah.
C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, juste avant de commencer, on était en train de parler de votre maman. Mmh. Et vous m'avez dit, ma mère a aussi beaucoup de choses à raconter, parce qu'avoir un enfant handicapé.
C'est pas facile.
Vous parlez de vous en disant, un enfant handicapé, je suis un enfant. Est-ce que vous l'êtes vraiment?
En fait, je trouve que l'handicap, ça dépend des situations. Moi, la vérité, je ne me sens pas vraiment handicapée. Parce que quand je suis dans des situations où je suis bien entourée par ma famille ou par mes amis, je me sens tout à fait normale. Mais parfois, il y a des situations dans la société où, par exemple, les annonces qui sont faites dans l'avion, les annonces qui sont faites, par exemple, dans les trains, etc., là, je me sens handicapée parce que je n'arrive pas à suivre.
Ok. Alors, votre handicap à vous, c'est quoi exactement? Parce que moi, je vois une jeune fille... C'est parce que la complète, comme on dit.
Alhamdoulilah, ça m'a pris beaucoup de temps pour arriver là. Vraiment beaucoup de temps. J'ai dû faire 10 ans de théâtre. C'est mon père qui m'a encouragée d'ailleurs. Avant, c'était pas du tout comme ça. Mais pour moi, l'handicap, c'est par exemple... Tu es bien. Tu es tout à fait normal. Mais parfois, dans des situations, tu te sens plus adapté. Mmh. Par exemple, juste dans des repas de famille ou des sorties en groupe, là, tu vas, par exemple, tu vas voir plusieurs personnes qui parlent en même temps et tu ne sais plus où tourner la tête.
Ok.
Qu'il y a une bouche qui parle là, une bouche qui parle là, et tu dois faire la lecture labiale de tout le monde. Donc la plupart du temps, je prétends que j'ai compris, mais je n'ai pas vraiment compris.
Ok.
Je suis une bonne actrice.
Alors, ce qui veut dire que là, vous lisez sur mes lèvres cette interview, vous m'entendez ou pas?
Si, je vous entends. La vérité, alhamdoulilah, là, je vous entends. Avant, je n'entendais pas bien parce que j'étais juste appareillée et j'avais des restes auditifs très minime.
Okay.
Et après, quand mon oreille est devenue complètement sourde du côté gauche, ben là, j'ai dû mettre l'implant cochléaire. Et j'ai l'impression que depuis que je me suis faite opérer pour ça, que ma vie, elle avait vraiment commencé. Parce que je sentais qu'à l'époque, j'étais toujours en train de faire beaucoup trop d'efforts et que c'était pas assez. Alors que maintenant, je sens que je fais des efforts, mais que j'arrive à m'en sortir.
Ouais. Donc, alors, vous êtes née sourde?
Mm-mm.
Non. Vous l'avez développée?
Voilà, plus ou moins. En fait, je suis née tout à fait entendante. Et vers mes 1 an et demi, j'ai commencé à développer une maladie rénale.
Okay.
Et du coup, ça a altéré mes reins et mes oreilles. Donc, j'ai commencé malentendante. Mais j'avais quand même assez de bons restes auditifs. Mais avec le temps, ça n'a fait que dégrader.
En
même temps, avec la musique, les bruits dehors et tout, c'est dangereux aussi. Donc, ça joue un peu.
Okay.
Et puis un jour, ben, mon oreille, elle a décidé de lâcher. Okay. Je me suis réveillée, j'ai mis mon appareil et ça n'a plus marché.
D'accord.
Du coup, voilà.
Et là, vous aviez quel âge?
22 ans.
À l'époque, vous aviez quel âge?
Quand j'ai perdu mon audition, 20 ans.
20 ans, d'accord. Ouais. Donc, ça ne fait pas longtemps, finalement.
Non, non, non.
Donc, vous avez suivi une scolarité tout à fait normale, avec l'appareillage, etc. Et les reins, comment ça va?
Les reins, là, ça va, alhamdoulilah, c'est stable. C'est...
Okay.
Mais ma mère, elle a fait les mains et les pieds, mon père aussi. Genre, c'est une maladie qui est un peu difficile à trouver. C'est l'acidose rénale métabolique, donc elle n'est pas très fréquente.
Okay.
Et pour la retrouver et comprendre qu'il y avait aussi un problème de surdité derrière, c'est un long combat.
Ok. Alors, pendant ces 20 premières années, ou là, on va dire ces 19 premières années, puisque pendant un an, il n'y avait pas de problème.
Oui.
Est-ce qu'à un moment ou un autre, vous vous êtes sentie avec... portant un handicap? Parce que dire « vous êtes handicapé », pour moi, c'est...
Ça,
porter un handicap, avant même de perdre complètement l'oreille, l'audition, est-ce que vous vous sentiez porteuse d'un handicap?
La vérité, oui. Parce que je sentais qu'à l'époque, quand je mettais des appareils auditifs, mes appareils m'aidaient, bien sûr, mais je devais fournir un effort genre quotidien pour bien entendre. Genre, déjà, là, je me rends compte que quand j'étais au lycée, quand je devais suivre un cours, j'entendais pas beaucoup de choses, mais je complétais beaucoup avec la vision. Genre, je regardais beaucoup, j'observais beaucoup, je lisais sur les lèvres et tout, je lisais un peu partout. Mais c'était quand même pas suffisant. Je rentrais chez moi, j'avais mal à la tête.
Ouais, parce que vous aviez fourni beaucoup de concentration.
Exactement, et c'était au quotidien. Maintenant, depuis que je mets l'implant cochléaire, je sens que c'est beaucoup mieux. Mmh.
Vous n'auriez pas pu le porter avant ?
Je ne me rendais pas compte à l'époque que je n'entendais pas bien. Je pensais que c'était normal, c'était ma norme.
D'accord.
Mais depuis que j'ai fait l'opération de l'implant cochléaire, pourquoi je l'ai fait ? Parce que mon nerf cochléaire, sa fille, il était mort. Du coup, là, je n'avais pas le choix. Il fallait que je me fasse implanter et vite. On m'avait proposé de faire l'implant cochléaire, mais je n'avais pas accepté. Parce que je me disais, en fait, si je le fais, moi, j'ai toujours vécu juste avec des appareils. Si je le fais, c'est genre vraiment, j'ai l'étiquette de « je suis sourde ouais. ». Déjà, j'avais du mal à m'accepter comme ça face aux étudiants, parce que comme j'étais dans une école normale, déjà, je me sentais différente et là, j'allais être encore plus différente.
Mais là, c'est pas visible, cet implant. Mais vous le savez, en fait.
C'est ça.
Il est pas visible, l'implant,
c'est ça,
du tout.
C'est ça.
Ils étaient comment ? Qu'est-ce qu'on nommait avec les enfants, les camarades de classe ?
C'était difficile à dire. Parce que je dirais qu'au primaire, c'était l'ignorance. Ils sont pas forcément méchants.
Oui.
Mais il y a un manque de sensibilisation face à ce sujet de la part des parents. Du coup, les enfants, ils ne comprennent pas. Et quand ils voient quelqu'un de différent... Mais
parce qu'ils voyaient l'appareil.
Oui, parce que ça se voyait ouais. Et j'avais une articulation différente. J'étais un peu renfermée sur moi-même. J'avais un peu peur du monde extérieur. Mmh. Du coup, les enfants, ils le sentaient. Et enfin, la psychologie de l'enfant, tout ça, avec la différence, ça ne matchait pas trop. Du coup, je n'avais pas beaucoup d'amis au niveau du primaire. Au collège, non plus. Je n'étais pas très bien dans ma peau. Du coup, les autres, ils le ressentaient. Donc, après...
C'était compliqué, ces années. Il y a eu des moments où vous n'avez plus envie d'aller en cours.
Non, parce que je me disais que malgré tout, genre, les cours, c'était vraiment la seule chose genre, dans laquelle je me sentais bien. Parce que je sentais que tout le reste, je n'arrivais pas à maîtriser. Je n'arrivais pas à maîtriser les relations sociales, les relations amicales. Genre, quand je sortais avec des amis, j'étais fatiguée. Quand je devais faire des choses, j'étais fatiguée. Alors que quand je lisais des cours, comme c'était juste visuel, j'étais pas fatiguée.
Fatiguée, ouais.
Donc, j'étais vraiment attachée à ça.
Ouais.
J'avais l'impression que c'était la seule chose que je maîtrisais. Du coup, non, j'ai pas arrêté.
Être en récré avec les autres.
J'aimais pas.
Ça, non, par contre.
J'aimais pas. C'était 15 minutes, mais c'était long.
Non, ouais. J'imagine que arriver à 8 heures du matin, traverser l'école, la cour, arriver en classe, c'est une fois assise avec le livre devant vous que.
Voilà, c'est ça.
Que Lina devenait une élève.
C'est ça, une amie avec les profs.
Ouais. Donc, les profs, par ailleurs, étaient beaucoup plus. On va dire conscient de la situation.
Ils étaient vraiment bienveillants. Déjà, j'avais un directeur, il était merveilleur. Du coup, il leur avait vraiment genre sensibilisé face à ma cause. Ils étaient vraiment là pour m'aider. J'ai encore des contacts avec des professeurs. J'ai encore le contact avec le directeur. Parce que je me dis qu'au fond de moi, ils m'ont beaucoup aidée. Mmh. Ils m'ont beaucoup aidée.
Ensuite, le lycée, les relations humaines.
Le lycée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'en avais marre de mon anxiété sociale. Je me suis dit, c'est à moi de changer ça, personne ne va le faire pour moi. Du coup, un jour, je me suis dit, papa, il m'avait proposé de partir en colonie de vacances à Barcelone toute seule.
OK.
Et moi, je me suis dit, une fois qu'on fait des choses dont on a peur, c'est bon, après, ça part.
Ouais.
Donc, un pays que je ne connais pas, une langue que je ne connais pas, des personnes que je ne connais pas. Et j'ai foncé. Et depuis que j'ai fait ça, j'ai réussi à...
Ça a été une renaissance.
C'est ça.
On dit merci à papa qui est avec nous aussi.
Merci à papa.
L'anxiété sociale, oui. Justement. Beaucoup de jeunes aujourd'hui en parlent. Mmh. Beaucoup de jeunes en souffrent. Mmh. Toi, tu es porteuse d'un handicap. Et c'est comme ça que tu expliques aussi cette part d'anxiété sociale. D'autres ne portent pas forcément un handicap, ni visible ni invisible. Mais cette histoire de santé mentale et d'anxiété sociale est devenue très présente dans la discussion des jeunes, des ados, etc. Tu le ressentais comment? J'ai commencé par te vouvoyer, mais là, je ne sais pas, je me suis permise de te tutoyer. Est-ce que tu le permets?
Oui.
Comment tu te sentais, en fait, à ce moment-là? Comment tu décris, toi, ton anxiété sociale?
Bon, là, ça remonte à presque 7 ans, donc j'ai l'impression que ça fait longtemps.
Ouais.
Et alors, comment je le ressentais? Parfois, j'avais l'impression qu'il y avait plein de choses qui manquaient. Pourquoi je stressais quand la personne, elle me parlait? Je me disais, il faut que je me concentre, il faut que je lise bien sur les lèvres. Si je lis pas tout sur les lèvres, je vais dire quelque chose de travers, je vais dire quelque chose qu'il ne faut pas dire, on va se moquer de moi, il va être la risée de tous. Donc c'est comme ça que j'avais commencé. Du coup, comment je me sentais quand une personne venait me parler, en mode, la personne, elle va se moquer de moi. La personne, elle va te moquer de mon handicap. Parce que je me rappelle, à l'époque, il y avait des garçons qui venaient chez moi, ils faisaient genre, ils me parlaient. Et moi, je pensais qu'ils me parlaient. Mais en fait, non. Ils faisaient bouger leur bouche, mais sans son.
C'était au primaire ou au collège?
C'était au collège.
Ils sont pas gentils, les enfants, entre à cet âge-là.
Mais c'est un adolescent, c'est pas un enfant, là.
C'est un adolescent. Vous leur en voulez aujourd'hui à ces... Parce que c'est une forme d'harcèlement.
Oui.
C'est une forme d'harcèlement. Mmh. Vous leur en voulez?
Pas vraiment.
La jeune adulte que vous êtes aujourd'hui, est-ce qu'elle leur en veut?
Pas vraiment, non. Parce que je me dis... Alhamdoulilah, salse, genre... J'ai beaucoup souffert, la vérité. J'ai du mal à me reconstruire. Et je suis toujours en train de me reconstruire. Mais... Je me dis, j'ai quand même réussi à finir mes études, de bonnes notes. Je suis bien entourée. Maintenant, j'ai de bons amis. Je fais de bonnes études. Je suis en train de sensibiliser des personnes face à ça. Je ne peux pas demander plus que ça. Et je me dis, l'erreur, elle est humaine. Les gens, ils changent.
Mais ce qui est bien, c'est que malgré ces réactions, tu n'as jamais eu envie d'arrêter tes études, en fait.
Je ne pourrais pas.
Non. Aujourd'hui, tu fais des études de dentaire, exactement. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers ça, vers...
Ma mère.
Elle est dentiste. Ok.
Elle est dentiste. En fait, je me rends compte qu'elle voulait un métier libéral pour moi.
Ouais.
Parce que mes parents, ils me disaient comme ça, si tu as un métier libéral, tu fais ce que tu veux et personne ne te dit quoi faire avec tes problèmes auditifs. Et ils avaient raison. Et moi, je ne savais pas encore à l'époque, mais ils avaient raison.
Ouais. Alors, par rapport à ça, justement, quand tu dis « je suis là, je sensibilise », c'est quoi pour toi l'importance de ce message? Et tu veux sensibiliser autour de quel sujet en particulier?
En fait, vraiment, je me rends compte pourquoi je veux faire ça. Parce que je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance. Alhamdoulilah, j'ai eu les moyens. J'ai eu des parents qui sont investis. J'ai une mère qui est scientifique. J'ai un père qui est littéraire, qui est très passionné, qui a beaucoup d'émotions. Du coup, je me suis dit que j'étais bien entourée. Et avec les moyens, j'ai pu bénéficier des soins et des appareils auditifs. Maintenant, je vois qu'au Maroc, il y a beaucoup de personnes qui sont sourdes, qui sont implantées, qui sont appareillées, mais leurs appareils ne fonctionnent pas assez bien sûr pour eux parce que le diagnostic n'est pas très bien posé, c'est pas adapté à eux, il n'y a pas un suivi psychologique bien soudé derrière. Et il y a des personnes qui n'ont même pas les moyens de se faire implanter. Donc ça, c'est pire. Et moi, je me dis que ça aurait pu être moi. J'aurais pu être dans une autre famille, être complètement sourde et ne pas avoir les moyens et ne pas avoir la chance de construire une vie comme ça. Et je me dis que plein de personnes qui sont sourdes, qui n'ont pas les moyens, auraient voulu avoir une vie comme ça, mais qui n'ont pas pu, par faute de moyens et par faute de connaissances. Donc, c'est pour ça que ça me tient à cœur.
Vous en parlez où, exactement?
Sur ma page Instagram.
Principalement?
Oui.
On va revenir à l'époque... Enfin, à l'époque, j'allais dire, du lycée, mais même maintenant, c'est l'histoire de jeunesse aussi.
Oui.
C'est aussi... L'arrivée de la féminité, sentir sa féminité. Bon, je sais que papa n'est pas très loin, on va faire comme s'il n'était pas là. D'accord, parce que nous, on l'entend là. C'est la féminité, c'est le regard des autres, c'est le regard des garçons, c'est les sentiments. Est-ce que tu te permets ce genre d'émotion? Ou tu te protèges?
Pas vraiment, parce que même en fait, j'ai toujours eu du mal par rapport au regard des autres sur moi. Mais j'ai pas forcément eu du mal par rapport au regard de moi-même sur mes appareils. Parce que quand j'étais petite, je me forçais à aimer mes appareils. Parce que je savais qu'au fond de moi, j'étais obligée, j'allais vivre avec ça toute ma vie. Du coup, quand j'avais 5 ans, je me rappelle, j'avais des amis imaginaires. Enfin, pas des amis imaginaires.
Oui. J'ai des enfants, elles sont toutes passées par l'ami imaginaire. Apparemment, c'est normal.
C'était pas vraiment des amis imaginaires, mais c'était plus des personnes imaginaires qui m'harcelaient. Pas que m'harcelaient, mais qui me disaient, mais pourquoi tu portes ça? Pourquoi tu portes ça? Et moi, j'essayais d'imaginer ce scénario parce que je pensais que je savais que ça allait arriver. Du coup, je me disais, en fait... Ce sont des appareils, ce sont des boucles d'oreilles super tendantes que vous n'avez pas et qui viennent du futur. Du coup, je me disais ça chaque jour. Et ça a fini par marcher. Donc même si j'étais passée par une période difficile, j'aimais quand même mes appareils. Mmh.
Du coup, mais voilà. Aujourd'hui, est-ce que tu es prête pour une relation amoureuse? Oui?
Parce que comme je m'aime, si la personne elle ne m'accepte pas comme je suis, elle peut partir. C'est moi qui vais l'envoyer balader, c'est
oui,
même pas ça.
Ouais, ouais. Est-ce que tes parents savent que tu es passée par, tous ces états émotionnels? Enfant, cette histoire de personnage imaginaire, ces discours intérieurs, toutes ces choses-là.
Je dirais l'enfance, pas trop. Parce que quand j'étais enfant, je ne savais pas que c'était possible de parler de ces émotions. Du coup, je gardais tout pour moi et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de mal. Et du coup, j'avais compris qu'au collège, il fallait commencer à parler. Donc là, je commençais à raconter tout ce que je ressentais. Donc, ils sont au courant de la moitié de ma vie.
Ouais. Là, ils vont découvrir une autre moitié, peut-être dans cette conversation.
Oui.
Ouais, c'est vrai. Oui. Tu as des frères et sœurs?
Oui.
Oui. Est-ce que le fait d'être différente de ses frères et sœurs, est-ce que d'abord tu te sens différente d'eux ou pas? Est-ce que tu sens peut-être, est-ce que tu prends trop de place ou plus de place dans la vie de tes parents que le reste de la fratrie?
Je dirais que je pense que je prends plus de place, la vérité, parce que déjà je ne me sens pas différente de mon frère et ma sœur.
À la maison?
À la maison, pas du tout. Ma sœur, elle a toujours été là pour m'aider.
Elle est plus âgée?
Elle est plus âgée. Elle est psychologue aussi.
Ah, magnifique.
C'est parfait.
Ouais.
Mon frère, il a toujours été là pour moi. Il est là avec ses gestes, avec sa présence, il est là. Du coup, je ne me suis jamais vraiment sentie différente. Mais c'est vrai que pour le coup, pour mes parents, je prends une place, une plus grande place, parce qu'ils ont dû s'occuper de moi plus longtemps. Il y avait un suivi derrière, beaucoup d'orthophonie, j'avais du retard pour les cours, avec mon retard de langage et tout. Donc, forcément, oui.
Oui, parce que, en fait, pourquoi je t'en parle? J'ai déjà eu l'occasion d'interviewer des femmes d'aujourd'hui qui était dans l'autre position, être la sœur d'une personne qui avait un besoin particulier dans la famille. Et souvent, ces femmes rapportent qu'à l'époque, elles se sentaient un petit peu, parfois passées en deuxième position, ne pas être la priorité des parents. Mais j'ai jamais parlé à une personne qui était au premier plan. Donc je ne sais pas si, par exemple, à un moment ou un autre, tu as pu... Peut-être même dans ta petite tête de petite fille, culpabiliser vis-à-vis de ta sœur et ton frère, ou au contraire te dire, finalement, j'ai quand même de la chance d'avoir mes parents pour moi. Ça, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant qui a un besoin particulier?
Je dirais que quand j'étais enfant, j'étais trop concentrée sur moi-même. J'essayais juste de survivre, donc je n'avais pas vraiment ressenti de ça. Mais dernièrement, j'ai commencé à le ressentir, parce que j'ai commencé à voir que finalement, on a dû beaucoup investir en moi. Mais je ne pense pas que mes frères et sœurs ils le prennent personnellement, parce que quand je leur parle de mes succès, ils sont tellement heureux pour moi. Donc je pense qu'au fond, mes parents, ils ont vraiment su équilibrer pour chaque enfant.
Ouais. Alors, la fin des études, c'est dans combien de temps, plus ou moins?
Je dirais dans 2 ans.
Oui, dans 2 ans. Après, c'est travailler avec maman.
J'imagine.
Ouais. C'est une bonne chose, justement, de pouvoir s'adosser à sa maman?
Ça dépend. Parce que ma mère et moi, on a une relation très fusionnelle. Donc, on est très, très, très copines. Mais du coup, parfois, ça peut être un peu difficile pour le travail.
Ouais.
Mais elle est toujours là pour m'aider. Donc, j'ai beaucoup de chance de la voir, de travailler avec elle, parce que j'apprends beaucoup de choses. Et je me dis que c'est bien que je travaille avec elle, parce qu'elle est toujours prête à m'écouter. Quand j'ai du mal à entendre, quand il y a trop de bruit, elle éteint la radio pour moi. Parce que je fais des stages chez elle de temps
d'accord.
en temps. Du coup, à chaque fois qu'on fait un stage, je lui dis « Écoute, maman, là, c'était pas facile pour moi. J'aimerais bien que tu diminues un peu plus le bruit de la radio, que tu fermes un peu plus la fenêtre. » Donc, elle est à l'écoute.
Ouais. Et tu es encore sensible à ces bruits-là?
Beaucoup.
Oui.
Au niveau du travail, oui.
Oui. Parce qu'en fait, tu ne supportes pas plusieurs sources. Tu as besoin d'une seule source de soit parler à une personne, soit regarder, soit écouter, soit regarder la télé, soit avoir la radio, mais pas avoir plusieurs sources.
Je supporte mal.
Oui, mais je pense que, enfin je ne sais pas, mais est-ce que c'est uniquement lié à ça? Parce que je connais des personnes qui sont en situation d'anxiété, qui ne supportent pas en fait une multitude de flux sonores.
Parce que je fais de l'anxiété.
Oui.
Du coup, je pense que c'est possible parce que, par exemple, quand il y a énormément de bruit, je me dis, mon cerveau, il est en mode, j'arrive pas à tout traiter, qu'est-ce que je fais? Je commence à devenir paralysée. Du coup, je pense que c'est en partie face à ça.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu en parles, tu as fait énormément de progrès, mais c'est aussi peut-être bien de dire aux autres qui sont peut-être dans la même situation que toi que ça reste quand même un... pas un combat, mais ça reste quand même presque un combat au quotidien.
C'est ça, ça l'est. Ça l'est.
Ça l'est.
C'est pour ça que je dis que parfois je sens que c'est un handicap et parfois je ne le sens pas. Mm. Ça dépend des endroits, ça dépend des personnes et ça dépend des bruits aussi.
C'est ça. Je t'ai fatiguée aujourd'hui dans cette conversation.
Non, c'était agréable.
C'est vrai. Parce que je dis, je sais, on parle de ça, mais je me dis, est-ce que tu as dû fournir beaucoup d'efforts?
Non, pas du tout, parce que j'avais une bonne prononciation. Donc ça, c'est très, très, c'est très encouragé ouais. Généralement.
Et en cours aujourd'hui avec les profs?
À l'époque, c'était compliqué.
Mais là,
c'est beaucoup mieux. Ouais. J'ai des profs à l'université, ils vont se reconnaître d'ailleurs, ils sont merveilleux, ils sont vraiment là.
Et tu es à l'UM6SS,
oui.
C'est ça, à Casa.
À Casa.
Voilà. Donc, tu as préféré rester avec les parents dans la même ville.
Oui, c'est plus facile. Mais en même temps, c'était le destin.
Oui, absolument. C'est bien dit comme ça, ça c'est le destin. Eh bien, Lina Benkiren, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci à vous.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.